Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, très heureuse de vous retrouver en ce 31 mars 2026. Il me semble qu'on ne l'a pas vu le mois de mars, mais on dit ça à chaque mois. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. Je trouve que le temps passe tellement trop vite. Mars qui se termine dans l'eau. Alors, avez-vous mis vos bottes de pluie ce matin, Mathieu?
Non, en fait, c'est le seul matin où je suis arrivé les pieds mouillés.
Pour vrai?
Ben oui, je suis habituellement assez prudent, mais là, je sais pas. J'ai regardé ma montre, ma montre me donnait la température, il faisait au-dessus de zéro. Je me suis dit, il n'y aura pas d'eau.
La température, c'est pas le temps.
Oui.
Il fait zéro, il pleut pas.
Exactement.
Alors non, la pluie est avec nous, sinon la pluie verglaçante et ou le grésil, tout un cocktail. D'où printemps, quand reviendras-tu? À Pâques, probablement. Alors, on reste confiants. Merci d'être là. Aujourd'hui, beaucoup de choses au menu. Nous aurons la chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui a lu un livre qu'elle a beaucoup aimé, « Les vagues scélérates » par Hélène Rompré. Nous aurons aussi une visite de la réalisatrice et scénariste de la nouvelle série « Annie et Joé ». Il s'appelle Julie Yvon, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est dans le paysage cinématographique télévisuel depuis plusieurs années. Et elle viendra donc nous parler de cette comédie romantique qui explore la neurodivergence. Aussi, on parlera du nouveau numéro de la revue Continuité qui parle d'inondations. Alors, j'espère que ça se passera pas ce printemps, ni les autres d'ailleurs. Caroline Fortin, directrice générale et rédactrice en chef de Continuité, sera avec nous, en tout cas au bout du fil, puisqu'elle est à Québec. Et lui, il sera avec nous en studio, Michel Poitevin, qui va nous parler du coût de l'électricité qui augmente dès demain. Michel va nous expliquer comment sont déterminés les prix de l'électricité au Québec. Alors, c'était maintenant ou jamais. Voici Les eaux de Mars par Georges Moustaki.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque,
une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Par peine, et on fin de camin, et on reste de toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
Les eaux de Mars, c'est Georges Moustaki. À la une de la presse, plus, c'est Céline Dion, coup fumant. Paris, je suis prête, Céline Dion a confirmé en grande pompe son retour sur scène l'automne prochain dans la Ville Lumière. La Tour Eiffel a même été illuminée lors de l'annonce. Pour les admirateurs de la diva, la nouvelle est inespérée. Alors d'ailleurs, on voit une partie de la Tour Eiffel magnifiquement illuminée en pourpre où on peut lire le nom Dion et le prénom Céline Dion dans l'ordre. Et puis, il y a plusieurs articles là-dessus sur cette belle nouvelle. Après une semaine de rumeurs et une campagne publicitaire sans précédent dans la Ville Lumière, Céline Dion a finalement confirmé son retour sur scène. Une série de 10 spectacles au Paris La Défense Arena qui débutera le 12 septembre. La Tour Eiffel s'est même illuminée pour l'occasion. Pour les admirateurs de Céline Dion, ce retour marque un moment aussi inespéré qu'exceptionnel. La diva de Charlemagne, qui a célébré ses 58 ans lundi, c'était hier son anniversaire, donnera 2 concerts par semaine au Paris, la Défense Arena, plus grande salle de spectacle couverte d'Europe avec ses 45 000 sièges. Elle foulera les planches du 12 septembre au 14 octobre, tous les mercredis et samedis. Céline Dion, tenue à l'écart des projecteurs depuis 6 ans, en raison des symptômes causés par une maladie neurologique, le syndrome de la personne raide, pourra ainsi se reposer entre chaque représentation. La mise en scène de ses concerts a été confiée au Montréalais Willow Perron, qui a notamment travaillé avec Rihanna, mais aussi Jay-Z, Lady Gaga, Drake ou encore Florence and the Machine. L'annonce a été faite à 21h, heure de Paris, par les médias français qui étaient agglutinés à l'espace du Trocadéro, tout près de la Tour Eiffel, où un enregistrement d'Hymne à l'amour, une pièce d'Édith Piaf que Céline Dion avait chantée aux Jeux olympiques en 2024, a été diffusé. Des extraits des pièces « I'm alive »,« Pour que tu m'aimes encore »,« My heart will go on » ou encore « Un soir » ont suivi avant que s'affiche le message « Paris, je suis prête ». La prévente des billets aura lieu du 6 au 9 avril sur AXS Tickets avant la mise en vente générale prévue le 10 avril. Des supplémentaires sont envisageables puisque le Paris, la Défense Arena, n'accueillera le tournoi de tennis masculin Rolex Paris Masters qu'à partir du 31 octobre. Si je vais vers le devoir, on en parle de Céline, mais pas à la une. À la une, on voit une photo d'une grande tristesse, une trentaine de morts après une attaque suivie de représailles au Nigeria. Des femmes pleurent la mort d'un membre de leur famille à la suite d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans un bar de Jos, J-O-S, qui est la capitale de l'État instable du Plateau, dans le centre du Nigeria. Ces attaques ont déclenché des représailles de la part de la foule, ont déclaré lundi à l'agence France-Presse des sources locales qui font état au total d'une trentaine de morts. Le Plateau est le théâtre de violences récurrentes dans ses campagnes principalement liées à des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs. Construction, toujours à la une du devoir, une initiative d'Ottawa sur le logement séduit peu le Québec. Si les plans détaillés de logements et de maisons dévoilés l'an dernier par la Société canadienne d'hypothèques et de logements soulèvent un intérêt grandissant au pays, Le bilan de cette initiative visant à accélérer la construction résidentielle demeure mitigé au Québec, tandis que 10 villes ontariennes se sont associées à ce projet. Aucune municipalité québécoise ne leur a emboîté le pas à ce jour, même si Montréal et Québec étudient cette possibilité, a constaté Le Devoir. Le bilan est effectivement très mitigé, confirme Isabelle Demers, qui est vice-présidente au développement stratégique aux affaires publiques et à l'innovation à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Et la raison, c'est que pour l'instant, ce n'est ni plus économique ni plus rapide pour les promoteurs immobiliers d'avoir recours à ce catalogue, constate-t-elle. Une situation qu'elle associe au manque dans ce catalogue de plans répondant aux besoins variés des villes québécoises. Et l'héritage oublié de la jeunesse ouvrière catholique, le documentaire « Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC au Québec » jette un regard sur ce mouvement qui a contribué à l'émancipation des Québécois et des Québécoises, film qui prendra l'affiche le 3 avril. Et finalement, à la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui, une une qui est divisée en deux. D'un côté, on voit Michael Rousseau et de l'autre, Céline Dion. Michael Rousseau annonce sa retraite dorée pour Mr. Rousseau, 773 000 par année à vie. Alors, Marie-Ève Doyon écrit une chronique Bon débarras et leçon à retenir, Antoine Robitaille. Une des leçons à retenir, c'est d'embaucher une personne qui sait parler le français. Michael Rousseau annonce sa retraite. On en parle dans tous les journaux depuis hier. Pris dans la tourmente pour son message en anglais uniquement, le PDG quittera l'entreprise en fin d'année. Et à la une du Journal de Montréal, comme je vous le disais, Céline Dion. Céline confirme son retour sur scène. « Je me sens forte ». Et Philippe Léger signe une chronique à propos de cette nouvelle. Les Français l'ont adoptée et le Québec brille à Paris, selon Mathieu Bock-Côté. Il en est question en pages 4 et 5. Et si l'idée ou l'envie d'aller voir Céline à Paris vous titille, ce sera les 12, 16, 19, 23, 26 et 30 septembre, 3, 7, 10 et 14 octobre qu'elle sera en spectacle à Paris, la Défense Arena. Et il y aura donc des billets qui, les prix sont quand même pas si exorbitants, selon moi. 89,50 €. Ça veut dire quoi? 110 $ environ? À 298,50 € maximum de 6 billets par date. Je pense bien que ça va partir assez vite. Et puis, une autre des questions qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Céline Dion va poursuivre? Est-ce qu'elle fera d'autres spectacles, surtout au Québec? Hein? C'est une diva de Charlemagne, comme on le disait tantôt. Et puis, Montréal, on souhaite... Montréal et aussi ailleurs au Québec, on souhaite qu'elle vienne présenter des concerts. Paraît-il qu'il y a déjà des négociations qui sont en cours avec Evenco, mais rien n'a été confirmé.
Mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi. Dans ma vie, dans tout ce que je fais, mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Se partage avec vous, c'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, en tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas.
Céline. Le nouveau numéro du magazine Continuité s'intitule « Patrimoine et inondations, vagues de risques ». Et on en parle avec Caroline Fortin, directrice générale des éditions Continuité et rédactrice en chef de ce même magazine. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous avez décidé d'aborder ce thème qui est quand même très actuel, malheureusement?
Oui, bien, parce que le Québec s'est construit autour des plans d'eau. Puis là, avec la crise climatique, les crues printanières, la fonte des neiges ou même les grosses pluies, ben tout ça, ça va gagner en intensité puis ça va être de plus en plus fréquent. Puis évidemment, une part de notre patrimoine se trouve à risque. Donc, avec ce numéro, on a voulu voir comment les inondations affectent notre patrimoine puis quelles sont les solutions qui sont à notre portée pour le protéger.
Bon, alors, en quelques lignes, là, comment justement les inondations affectent-ils notre patrimoine? Affectent-elles plutôt notre patrimoine?
Oui, bien, en fait, ça peut être... ça affecte notre patrimoine bâti. Tu sais, évidemment, il y a toute la question des inondations dans les anciens bâtiments patrimoniaux, mais aussi l'aménagement du territoire. Tu sais, par exemple, ça peut être un cœur de village patrimonial qui est affecté. Puis après ça, ben comme par exemple à Baie-Saint-Paul, ils ont fait de grands, grands efforts pour protéger leur patrimoine. Évidemment, il y a eu certaines démolitions là, avec les grosses inondations qu'il y a eu il y a quelques années. Donc, ça vient porter des coups durs là, dans des espaces patrimoniaux comme ceux-là, qui est aussi une espèce de patrimoine mémoriel, c'est vivre près de l'eau et tout ça, qui est comme très ancré là, ici au Québec, puis dans les communautés riveraines. Puis évidemment, ça l'affecte, cette espèce d'amour là, des riverains.
Et il y a Marilyn Godette, d'ailleurs, dans le dossier. Marilyn Godette, qui est doctorante en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal, qui dit très justement que l'on a construit comme si l'eau était stable, maîtrisable, alors qu'elle ne l'a jamais été.
Effectivement.
Puis au début, on peut apprendre que, bon, on le sait, là, mais on nous fait un petit résumé des premières implantations humaines qui se sont faites au bord de l'eau. C'était pour des raisons pragmatiques et ça a changé au cours du temps.
Oui, parce que, tu sais, au début, c'était vraiment pour avoir un accès à l'eau facile. Puis après ça, avec... la révolution au travail, tout ça, les gens ils ont commencé à acheter des chalets, aussi le développement des routes, l'accès à la voiture. Et tout ça, ça a favorisé une espèce de tourisme local, de villégiature. Puis, évidemment, ça a créé beaucoup de constructions sur le bord de l'eau, donc nos communautés riveraines. Puis, évidemment, ça a toujours été des espaces qui sont plus à risque des inondations, mais évidemment, avec la crise climatique, tout ça s'est exacerbé.
On voit des photos qui sont très, très parlantes et qui rappellent aussi, pas nécessairement des beaux souvenirs, là, pour ceux qui étaient là en 87. Il y a eu le déluge à Montréal en 87 et en 96 au Saguenay. D'ailleurs, vous avez photographié la petite maison. On a la photo avec la petite maison blanche, là, qui est la seule rescapée du déluge.
Oui, en fait, c'est la petite maison blanche aujourd'hui. Donc, c'est un peu une espèce de symbole de résistance, un symbole de résilience aussi. Donc, on le voyait comme ça pour le numéro. Mais oui, effectivement, c'est un numéro qui est très émotif, là. Donc, c'est sûr que ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça l'affecte énormément. Puis, c'est pour ça qu'on s'est penché aussi sur des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre patrimoine? Puis aussi pour redonner accès aux rives, puis pour rendre les rives, tu sais, positives, accessibles, parce qu'il y a une grosse partie des rives qui sont privatisées également. Donc, c'est aussi une question qui est exposée dans le numéro.
Alors, justement, quelques pistes de solutions, est-ce que vous pouvez nous en donner? Il y a la part des technologies numériques là, qui peuvent contribuer à la protection des milieux riverains.
Oui, donc il y a un programme qui a été actif pendant une dizaine d'années qui s'appelle Aquarisque. Donc ça, c'était un programme qui voulait aller chercher les archives. Donc à travers le temps, les photos, les articles de journaux, des journaux intimes, etc. Donc essayer de cataloguer l'évolution des inondations à travers le temps pour essayer de développer comme une espèce de tendance là à travers le temps. Puis ça a été très, très apprécié par ceux qui s'occupent justement de la gestion des eaux, surtout dans les municipalités, mais il y a eu comme un grand bassin d'utilisateurs. Donc, c'est un peu comment est-ce que l'histoire peut nous aider à mieux vivre notre présent. Puis sinon, il y a d'autres solutions. Tu sais, par exemple, les îles de la Madeleine ont surélevé certains bâtiments à la grave. Et il y a certaines villes qui ont fait des travaux dans la rivière pour éviter les débordements, comme l'ajout de structures de béton qui permettent de retenir les glaces. Donc, il y a vraiment plein de solutions concrètes qui ont été éprouvées là, dans le numéro, puis que les gens testent, là, voir si ça fonctionne.
Vous avez parlé aussi de la municipalité de Baie-Saint-Paul, je crois. Il y en a une autre aussi qui est évoquée, c'est Saint-Raymond, une autre municipalité qu'on pourrait qualifier de résiliente.
Oui, absolument, parce que dans les deux cas, oui, il y a eu des grands dommages à leur municipalité, puis aussi, ils n'ont pas pu conserver tout leur patrimoine, mais ils ont fait un grand effort pour conserver au maximum. Mais on a choisi ces exemples-là pour faire comme une espèce d'état des lieux parce que ils ont été très proactifs pour essayer non pas juste de réparer ce qui a été brisé, mais aussi pour protéger à l'avenir. Là. Donc, par exemple, justement, là, c'est la municipalité de Saint-Raymond là, qui a fait des travaux dans la rivière. Donc, ils ont creusé certains aspects pour certains endroits pour que la rivière soit plus profonde. Ils ont fait aussi une vidéo qui est disponible sur le site web de la ville de Saint-Raymond qui est vraiment extraordinaire, là, qui explique toutes les démarches aussi citoyennes. Ils ont fait beaucoup de mobilisation citoyenne pour être capable de vraiment faire des actions concrètes qui font du sens et qui ont un impact vraiment dans la vie des citoyens.
Isabelle Thomas, qui est professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, dit, et je cite, « Plutôt que de se battre contre l'eau et la nature, il faut réfléchir à comment vivre avec elle. » Alors, c'est justement ce que ces municipalités ont décidé de faire.
Oui, absolument.
Oui. Mais est-ce qu'il faut quand même, quelquefois, accepter de laisser disparaître le patrimoine ou c'est toujours possible de le protéger?
Oui, ben en fait, ce que les experts nous disent, c'est que c'est une question qui est difficile à poser, mais au final, on peut pas tout sauver. Puis il y a des choses qui, par exemple, dans l'article, ils ont pris un exemple qui est européen. Je pense que c'est le site archéologique, les Orcades. Donc, c'est comme des espèces de piliers de roches qui sont placées en cercle, puis c'est sur le bord de l'eau, puis avec la montée des eaux, ils vont inévitablement perdre cet espace-là. Puis là, ils se demandent, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que s'ils le déplacent, puis qu'ils le réinstallent ailleurs, ils disent, ben, l'installation historique perd tout son sens. Alors là, ce que les responsables du site ont décidé de faire, c'est comme faire un deuil programmé. Donc, d'essayer de vraiment prendre des photos, capter numériquement l'espace, puis après ça, avec un comité citoyen, débuter là, le deuil programmé du lieu, puis se dire, bon, ben, on va le perdre, ça fait partie de notre passé. Donc, il y a comme toute cette réflexion-là aussi dans le milieu du patrimoine, parce qu'évidemment, on veut sauver au maximum, mais on peut pas tout sauver. Donc, il y a comme une espèce de réflexion puis un équilibre à aller chercher.
Ben justement, parlant de réflexion, quel rôle une revue comme Continuité peut-elle jouer dans ce débat-là?
Oui, en fait, c'est surtout l'accès au grand public aux questions du domaine du patrimoine. Parce que nous, notre objectif, là, c'est de toucher le grand public, monsieur et madame tout le monde, qui ne connaissent pas nécessairement le patrimoine, même si ça intéresse les gens du patrimoine, évidemment. Puis, c'est d'essayer de comprendre tous ces enjeux-là, comment ça nous touche, nous, parce que tout le monde vit le patrimoine québécois à tous les jours, à sa manière. Puis, le protéger, ça vient... Puis aussi, se questionner par rapport à notre patrimoine, ça vient jouer un rôle important dans notre identité québécoise. Donc, je pense que c'est un rôle important, puis c'est important de lire sur notre patrimoine. Évidemment, continuité, si c'est possible, mais s'ouvrir au patrimoine, c'est très important.
Et Caroline Fortin, dans ce numéro-là, il y a aussi d'autres sujets abordés, notamment la teinture traditionnelle. On fait la connaissance de Céline Desjardins, qui est une teinturière presque en voie d'extinction, là.
Oui, il y a aussi...
sa pratique. Pardon.
Oui, ouais. Dans chaque numéro, on propose un dossier thématique. Là, c'était les inondations, mais on a aussi des chroniques non thématiques. Donc ça fait partie de ça. Puis c'est une entrevue avec une pratiquante là, du patrimoine vivant. Puis elle est spécialisée en teinture naturelle et végétale de laine. Puis elle est dans la région de la Naudière. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit un peu l'importance de préserver ses savoirs traditionnels. Puis elle travaille beaucoup en médiation, en partage de savoirs. Puis justement, on essaie de faire une magnifique illustration avec une de ses recettes à faire à la maison.
Oui, à la page 14, on va essayer ça quand on aura un petit peu plus de temps. Et aussi, il y a la restauration d'un tramway là, qui est un article passionnant, là.
Oui, c'est une collaboration avec le Centre de conservation du Québec. Donc, on entre un peu dans l'arrière-scène de ceux qui font de la restauration d'objets patrimoniaux. Là, dans ce cas-ci, c'est un tramway qui a eu toute une vie, toute une histoire. Puis, il nous explique un peu comment est-ce qu'ils l'ont restauré. Puis, après ça, il est exposé au Musée de la civilisation, si je ne me trompe pas.
Oui, vous ne vous trompez pas. Ouais. Et donc, Continuité s'associe aussi avec une autre revue extraordinaire, là, Caribou. Parlez-nous en quelques secondes, Caroline, de cette association.
Oui, en fait, c'est que le magazine Caribou, qui est une revue sur la culture culinaire québécoise. C'est comme un genre de coup de foudre littéraire. Puis on trouvait qu'on avait beaucoup de similitudes. On parle, nous, c'est vraiment le patrimoine sous toutes ses formes. Eux, c'est vraiment la culture culinaire. Mais on s'est dit qu'on pouvait intéresser un grand bassin de lecteurs. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un échange de textes pour ce numéro-là seulement, pour donner un petit aperçu de ce que, par exemple, Caribou publie. Puis à Caribou, ils vont avoir un aperçu de ce que Continuité publie. Puis en parallèle, on offre un abonnement croisé. Donc, c'est une soixantaine de dollars. Vous recevez 6 numéros, donc 4 Continuité, 2 Caribou, pendant un an. Donc, c'est super avantageux. Puis c'est disponible sur notre site web magazinecontinuité.com.
Belle association. Merci beaucoup, Caroline, directrice générale des éditions Continuité et rédactrice en chef de ce même magazine, Caroline Fortin. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
c'était Tyr le Coyote. Il est en studio, Michel Potvin, pour la chronique économie. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Vous me l'apprenez, mais dès demain, 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, le coût d'électricité va augmenter.
Oui, malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Les tarifs demain augmentent de 3 %. On estime que pour un petit logement, 5 pièces et demie, mais 750 pieds carrés, donc ça fait pas un gros 5,5, ça.
Ouais.
La hausse va être à peu près de 2,30 par mois entre le 1er avril et le 31 mars l'an prochain, parce que comme on va le voir, il y a une autre hausse au 1er avril de l'an prochain. Et puis pour une grande maison, mettons 2230 pieds carrés, on estime que ça va être 8,5 en plus par mois. Évidemment, ça varie d'une maison ou d'un ménage à l'autre, mm-hmm. dépendamment de notre consommation d'électricité, mais en moyenne. Donc, les hausses auxquelles on peut s'attendre, 3 % le 1er avril 2026, un autre 3 % en 2027, 1er avril, puis 1er avril 2028, 2,6 %.
Donc, ça, c'est coulé dans le béton.
Oui, ça a été décidé, là, à moins qu'il y ait un changement de gouvernement puis qu'il y ait de nouveaux décrets. Là, mais,
parce qu'il va y en avoir un changement de gouvernement.
Possible. Ouais. Il va y avoir des élections.
Oui, oui. Ça... Pour pas mettre la charrue avant les vœux.
Non, mais en même temps, ça...
ça regarde dans ce sens-là, ouais.
C'est ça. L'inflation au Québec est à 2,8, donc c'est hausse de 3,3 et 2,6. C'est légèrement en haut de l'inflation.
OK. Alors...
Puis peut-être juste mentionner, les clients commerciaux, ça, c'est les tarifs résidentiels, les clients commerciaux et industriels, eux vont avoir une hausse de 3,6 %. Donc, ça augmente plus pour du côté industriel ou commercial.
Ça va nous coûter cher, donc.
Oui et non, ça va nous coûter un peu plus cher comme on vient de le voir. Mais juste pour mettre les choses en perspective, regardons combien ça coûte l'électricité au Québec. C'est toujours intéressant de se comparer, puis parfois ça nous permet de nous consoler. Donc le tarif D, le tarif domicile ou résidentiel, au 1er avril 2026, donc à partir de demain, pour les premiers 40 kWh par jour, c'est 6,27 sous. Donc, 6 sous et 27 par kilowattheure pour les 40 premiers. Toute consommation au-delà du 40 kilowattheure par jour, c'est 10,97.
40 kilowattheure, c'est à peu près une moyenne de ce que les gens utilisent?
C'est pas... pour un petit logement, là, j'imagine que oui mais c'est sûr que si tu as une maison, tu vas frapper le tarif plus élevé.
Ouais.
Mais ce qui est bien, je l'ai appris en fait en regardant sur le site d'Hydro-Québec, c'est que ce 40 kWh-là, il n'est pas appliqué jour après jour. On dit, supposons que la facturation, c'est 60 jours, on multiplie 60 fois 40, donc ça nous donne 2400. Donc les premiers pour un mois, les premiers 2400 sont à ce tarif-là. Donc même si une journée, on est en haut de 40, mais le lendemain, on est moins, on ne paiera pas le tarif plus élevé si notre moyenne mensuelle est en bas de 40.
Ouais.
Donc c'est ça. Puis si je regarde... et puis aussi la contribution journalière de 47 sous par jour. Donc puis ça, c'est... Les économistes, on voit ça, c'est une contribution frais fixe. Hydro-Québec, pour distribuer l'électricité, il y a tout un réseau de distribution, il y a des barrages, des poteaux et tout. Donc ça, c'est fixe, peu importe notre consommation. Hydro doit payer pour ça. Puis une façon de financer ça, c'est de charger un tarif fixe pour l'abonnement par jour. Ensuite, si on se comparait... Bon,
ouais, pour se consoler.
C'est ça. Donc, en 2025, donc avant la hausse, en dollars canadiens et avant taxes, à Montréal, le coût moyen, là, puis, donc c'est en quelque part entre le tarif avant 40 et en haut de 40 kWh, était 8 sous et 29 du kWh à Montréal. Ça, c'est avant taxes. Là, on a des taxes de 15 %. Nous, le TPS, TVQ, ça s'applique à ce tarif.
8 sous 29. 29 quoi exactement?
8 sous virgule 29.
Oui,
donc, 8 et quart, un peu plus que 8 sous et quart du kilowattheure. Si on regarde à Vancouver, 12,60. Calgary, 22,90. Toronto, 15,57. Puis dans les Maritimes, ça varie d'une province à l'autre, mais c'est autour de 20.
Oui.
Aux États-Unis, alors tenez-vous bien, si vous faites marcher votre aide climatisée à San Francisco, 59,94.
Mmh, on l'a donc, fait marcher, on le fait fonctionner.
Exactement, donc c'est 7 fois plus que chez nous. Là. Chicago, 24,33, New York, 52,48, puis Boston, 47,87. Donc c'est énorme. Puis c'est pour ça que c'est, on peut dire, ça pourrait, c'est rentable d'exporter aux États-Unis parce qu'ils ont des tarifs très, très élevés. Puis nous, nos coûts de production sont vraiment inférieurs à ça. Donc finalement, avec notre petit 3 %, on n'est pas si mal.
Non.
Là, on va monter autour de 9 sous, là, mais quand on compare ailleurs...
c'est vrai qu'on se console.
On se console.
Alors, Michel, comment ils sont déterminés les prix, les tarifs de l'électricité au Québec?
Bon, au Québec, Hydro-Québec, d'abord, on mentionne Hydro-Québec appartient au gouvernement. Donc, au gouvernement, donc à tous les Québécois. Là, on est tous actionnaires d'Hydro-Québec. Mais c'est pas Hydro-Québec ni le gouvernement qui directement décide des tarifs d'électricité. On a une bibitte là, qui s'appelle la Régie de l'énergie.
Ah.
Et puis, le mandat de la Régie d'énergie, c'est de déterminer, suite à des audiences publiques, de fixer les prix de l'électricité et aussi du gaz naturel. Bon, ça concerne moins ce qu'on parlait aujourd'hui, mais électricité et gaz naturel au Québec. Donc, la Régie de l'énergie, ils ont des gens qui regardent les coûts d'Hydro-Québec, etc.
Les audiences publiques, ça fait partie... C'est nous, ça? Ce sont les citoyens?
Oui, ça pourrait être l'Office de protection des consommateurs qui y va, les PME, etc., qui vont puis font des représentations pour, la plupart, pour limiter la hausse. La Régie rend des décisions qui sont finales et sans appel. Donc, c'est déterminé. Alors... Les critères, en général, tournent autour des coûts de production, de distribution et puis de transport de l'électricité. Par contre, la politique a quand même un peu de...
Tout est politique, hein, finalement.
Exactement. Donc, d'abord, il y a les audiences publiques qui sont là. Puis, le gouvernement peut intervenir. Puis, c'est ce qui nous est arrivé en mars 25. Le gouvernement Legault... On avait de l'inflation à l'époque. Le gouvernement Legault a signé un décret pour limiter la hausse à 3 %, la hausse des tarifs d'électricité. Donc, le fameux 3 % de hausse demain, là, ça vient du décret. La Régie de l'énergie voulait l'augmenter à 3,6 %. Donc, le décret touche juste le secteur résidentiel. Et puis, on a vu tout à l'heure, commercial, industriel, eux ont eu la pleine augmentation de 3,6 %. Comment on va financer, là? La Régie disait, bien, ça en prend 3,6 % pour que Hydro maintienne, entre guillemets, sa rentabilité,
ouais.
Si vous voulez. Bien, le dividende au gouvernement va baisser. Donc, c'est tous les Québécois. On en bénéficie d'une part par le biais de notre consommation d'électricité, mais d'autre part, le versement dans le Fonds général du gouvernement va baisser d'autant. Donc, ceux qui sont subventionnés, ce sont, je dirais, les gros consommateurs d'électricité résidentielle.
Est-ce que c'est une bonne politique, selon vous?
Oui et non. Des économistes...
C'est une réponse...
Oui, très économiste.
Qui revient souvent chez vous, oui.
C'est ça. On peut dire que les consommateurs en bénéficient, mais vraiment, limiter la hausse des prix de l'énergie, ça n'encourage pas à économiser. Okay? Si on regarde à San Francisco, je suis sûr qu'ils consomment pas mal moins d'électricité que
ouais.
nous. Au Québec, puis si on consomme plus, bien, on va moins exporter. Et puis au Québec, Hydro-Québec exporte beaucoup, puis on exporte à peu près à 15 sous le tarif moyen l'an dernier à l'exportation sur les marchés. Je ne parle pas des contrats à long terme, là, mais sur ce qu'on appelle les marchés spot. Des fois, il y a une grosse demande aux États-Unis, bien là, Hydro-Québec ouvre les vannes et puis envoie de l'électricité aux États-Unis. Donc, on vend ça à 15 %. Donc, si nous, on l'utilise...
À 15 cents?
À 15 sous, pardon.
Ouais.
Si nous, on l'utilise... cette électricité-là, puis qu'on paye seulement Hydro autour de 8 cents, bien, il y a un manque à gagner. Là. Donc, si les prix étaient plus élevés, on économiserait un peu plus, Hydro pourrait plus exporter. Puis au total, globalement, les Québécois gagneraient. Là. Donc, je pense que les tarifs d'électricité, surtout avec à deux paliers, là, on peut dire qu'on pourrait augmenter plus le deuxième palier en haut du 40 kWh. Donc, les gens plus démunis, qui ont des plus petits logements, bien, il n'y aurait pas beaucoup de la hausse. Par contre, ceux, les gros consommateurs qui ont le sauna dehors l'hiver, la piscine chauffée, les gros garages, la grosse maison à chauffer, bien, eux, ils paieraient beaucoup plus. Là. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, On est des gros consommateurs d'électricité, les plus gros au Canada, mais en même temps, on a le chauffage électrique. C'est difficile, quand on regarde ces chiffres-là, dire est-ce que c'est parce qu'on gaspille ou bien on mm-hmm. se sert plus d'électricité dans plusieurs domaines.
Un mélange des deux.
C'est ça, c'est un mélange des deux. Puis Hydro-Québec, à cause qu'elle ne peut pas augmenter ses tarifs autant, a développé des programmes pour inciter les gens à l'économie. Il y en a probablement qui en profitent. Le tarif FlexD, là, où le tarif est beaucoup plus cher pendant des périodes de pointe décrétées par Hydro-Québec l'hiver. Donc là, on essaie de couper beaucoup l'électricité. Puis en revanche, Hydro nous donne un tarif encore plus bas le reste du temps. Et puis aussi, on a, je voulais le mentionner, les thermostats ILO qui sont gratuits.
Oui,
là,
oui.
Je pense,
H-I-L-O.
H-I-L-O, puis ça, ça vaut vraiment la peine. Là, moi, j'en ai profité. L'installation est gratuite, le thermostat est gratuit, puis on peut le contrôler à distance avec le téléphone, etc.
Pour les locataires, les propriétaires.
Oui, je ne sais pas pour les locataires s'il faut passer par le propriétaire, ouais, là, mais en même temps, c'est leur avantage aussi. Il faut en parler à son propriétaire.
Merci beaucoup, Michel.
Ça m'a fait plaisir.
À la prochaine.
Au revoir.
Très belle pièce, When I Fall in Love, par le trompettiste Chris Botti, pour nous mettre dans l'ambiance de cette série Annie et Joey, une idée de Julie Yvon, une comédie romantique. Et l'autrice et réalisatrice Julie Yvon est devant moi pour parler de cette série. Bonjour,
bonjour.
Julie. Je me souviens de votre premier long métrage, Crème glacée, chocolat et autres consolations. C'était il y a 25 ans déjà.
Oui.
Le temps passe.
Absolument.
Et vous avez participé à plusieurs téléséries. Je regardais votre CV, là. Vous n'avez pas chômé depuis votre première réalisation ce long-métrage-là.
Non, quand même. Là. Il y a eu deux autres longs-métrages, puis il y a eu plusieurs séries comme autrice aussi.
Oui. Et puis là, Annie et Joey, dans votre bagage, comment vous situez ce projet-là?
C'est un projet très personnel, dans le fond, que je portais en moi depuis longtemps, mais bon, la vie d'artiste, c'est aussi, on va aussi à un moment donné où le vent nous pousse. Donc, j'ai commencé à travailler plus activement en télévision après mon dernier long métrage. Puis, je me suis consacrée davantage à l'écriture parce que c'était plus simple avec trois enfants à la maison. Maintenant, là, c'est ça. Comme c'est un projet plus personnel, j'avais envie de revenir à la réalisation. Donc, quand je suis revenue avec ce projet-là en 2023, auprès de Dominique Veillet de Zone 3. J'ai dit, bien, celui-là, je veux le réaliser moi-même. Est-ce qu'on peut... Puis donc, à partir de ce moment-là, on est allé faire notre pitch à Série Plus.
Et ça a marché.
Oui, ça a marché.
Il y a eu un oui. Oui. Quand vous dites un projet très personnel, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Bien, en fait, c'est qu'il y a un des personnages qui est issu de la neurodivergence, qui est dyspraxique, en fait.
Et, ça veut dire quoi, ça, dyspraxie?
La dyspraxie, c'est un trouble de la coordination. Mais il y a souvent des troubles associés au niveau du langage et tout ça. Donc, voilà. Et ben moi, j'ai un de mes enfants qui est atteint de ça. Donc, aussi à l'idée où au moment où j'ai eu l'idée, j'étais en train de découvrir ce que ça voulait dire, cette patente-là. Et voilà. Et là, j'avais envie de faire quelque chose de très positif, de très lumineux par rapport à ça.
De très rose.
De très rose, absolument.
La couleur
j'avais
rose
le goût de couleur.
Éliminante, ouais.
Oui, c'est ça. Donc,
on va regarder.
Voilà.
On va regarder. On va écouter, puis on va l'imaginer aussi, parce que c'est très imagé, cette bande-annonce là, de Annie et Joey.
T'as-tu eu un accident?
Non, un coup de foudre.
Si je peux t'embrasser.
Non.
Joey, il sait que t'es neurodivergente, hein?
Il pense que je suis une intellectuelle qui a étudié à l'université.
Il va te briser le cœur, ce gars-là.
Toi, tu veux tomber en amour, hein? Peut-être que lui, il veut juste avoir du fun, hein?
Joey, j'avais un amoureux.
Il te mérite pas, Joey.
Tu veux-tu qu'on l'aille sans gang?
C'est impossible de l'aller.
Il est pas question que tu joues au yo-yo avec ma fille.
J'ai besoin de réfléchir. Mais
voyons donc! Asti, c'est ta faute, tout ça!
Quand on est sur le point d'abandonner, c'est là qu'il faut s'accrocher encore plus.
J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. T'es vraiment spécial.
C'est qui cette fille-là?
Annie Lafay.
Annie et Joey. Annie, c'est Romane Lefebvre qui l'incarne avec absolument un charme. Elle a un charme fou, cette comédienne, et son personnage est très, très attachant. Et Félix-Antoine Duval, lui, incarne Joey, le personnage pour lequel Annie aura un coup de foudre. Alors, c'est une comédie romantique. Est-ce que vous présentez cette série-là de cette manière-là?
Ben oui, ben j'aime dire que c'est aussi une comédie dramatique dans le sens où il y a quand même des enjeux profonds. T'sais, c'est pas, on n'est pas juste dans la comédie, on n'est pas juste dans le comique. Il y a un ton qui se veut léger, joyeux et tout, mais on a quand même un personnage donc qui a une certaine condition, qui va essayer de dissimuler sa condition pour se faire accepter de ce gars sur
qui
elle a eu un gros kick.
Nous-mêmes,
là,
les spectateurs, on ne sait pas qu'elle a une condition. On la trouve extrêmement originale, mais c'est pas dit au début là, qu'elle est neurodivergente.
Non, pas du tout. Puis j'ai fait exprès pour ça parce que je voulais qu'on la rencontre d'abord comme un personnage,
ouais,
que le diagnostic vienne plus tard. Aussi, ben, on a un Joey qui va pas se rendre compte tout de suite non plus, qui justement la trouve originale,
oui,
gênée, c'est ça, ouais, est spéciale, mais qui a pas nécessairement, qui est pas en train d'essayer de lui donner un diagnostic. Donc je voulais qu'on soit un peu dans son point de vue à lui, dans sa posture à lui. Je donne des petits indices. On voit que dans son entourage, son père est très protecteur. T'sais, on saisit des choses. On sait qu'il y a quelque chose de particulier avec elle, mais j'ai fait exprès de ne pas le nommer tout de suite.
Alors, vous avez aussi travaillé non seulement avec Romane Lefebvre et Félix-Antoine Duval, mais un bel entourage, le Joël Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, justement, qui fait le père de Romane. Annie,
oui.
François Papineau, Catherine Bérubé, Rosalie Bonenfant, qu'on aime plus ou moins dans cette télésérie. C'est voulu, hein?
Oui, ben oui, c'est la rivale.
Oui, et Marie-Lise Bourque qui joue le personnage très émouvant d'une mère qui n'est plus là, mais qu'on voit à l'écran. Là.
Oui, absolument.
Alors, c'est votre première réalisation d'une série télé?
Non, j'avais fait un peu de réalisation avant, mais pas comme réalisatrice principale. Fait que là, je suis comme la réalisatrice principale de celle-là, oui.
Alors, l'idée derrière cette création-là, c'était quoi? De montrer que la neurodivergence, ça peut être une condition, je sais pas moi, positive?
Oui, bien, de montrer ce que ces gens-là, les gens différents, neurodivergents, peuvent nous apporter. Tu sais, on est beaucoup dans... Bien, d'ailleurs, moi-même, avec ma première série qui était Alerte Amber, j'étais plus dans le drame que ça pouvait provoquer au niveau... personnel dans une famille et tout ça, parce que ce sont souvent des enfants qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de soins. C'est pas nécessairement facile non plus comme parents et tout ça. Mais moi, je trouve comme parent que ça m'a apporté énormément, que ça a apporté énormément aussi à mes autres enfants.
Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Mais ça nous fait voir le monde un peu différemment. T'sais, d'abord, il y a une lenteur qui nous fait nous rendre compte qu'on court toujours, puis après quoi on court finalement. Ensuite, il y a une espèce de candeur aussi, de façon vraiment de recevoir sans juger, d'accorder la confiance... De trouver les gens beaux, fins, extraordinaires, peu importe ce qu'ils font. Je trouve qu'on vit dans un monde où on a donc envie d'être regardé de cette façon-là. Et les jeunes, parce qu'il n'y a pas juste ma fille, évidemment, quand on a un enfant qui est dans le neurodivergence, on fréquente d'autres parents, d'autres enfants. Et le regard que ces jeunes-là posent sur les adultes, sur les gens qui s'occupent, qui sont aimables avec eux... C'est vraiment très, très nourrissant.
Oui.
C'est vraiment très valorisant.
Ça nous confronte
aussi. Et ça fait du bien, oui. Oui. Et donc, c'est un peu ça pour moi, Annie et Joey. Tu sais, je me disais pourquoi Joey tomberait pour une Annie. Et je pense qu'il y a une grande partie de ça qui vient du fait qu'elle est très lumineuse et qu'elle le sort de son pattern habituel. Mm-hmm.
Et lui qui est un coureur de jupons, là.
Absolument.
Ouais.
Et qu'elle le regarde d'une façon dont il a extrêmement besoin d'être regardé. On a tous besoin d'exister dans le regard de quelqu'un. Et exister dans le regard d'Annie, c'est se sentir extraordinaire. Et ça, ça fait du bien.
Et Annie est extrêmement persévérante.
Oui.
Quand elle veut quelque chose, elle s'arrange pour l'obtenir. Et je dirais, est-ce que vous diriez que c'est une séductrice aussi?
D'une certaine façon, j'emploierais peut-être plus le mot charmeuse. Elle est charmante, mais oui.
Elle a des bons plans, en tout cas.
Elle a des bons plans qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis j'ai créé autour d'elle quand même aussi un réseau, des amis, des gens qui embarquent avec elle dans ses petites folies. Mais c'est une petite folie qui fait du bien aussi. Ça fait du bien de se dire qu'on peut être en amour, qu'on peut se montrer intéressé à quelqu'un, qu'on n'a pas besoin de jouer nécessairement une espèce de game ou de prétendre d'être quelque chose qu'on n'est pas, quoi qu'elle va finir par prétendre malgré tout.
Oui.
Qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas, mais en même temps, il y a une vérité dans sa façon
d'être.
Oui,
il y a une vérité. C'est très beau aussi. Vous avez tourné où exactement les décors? Ben, autant les maisons que les extérieurs que les intérieurs, là, ça séduit l'œil. On parlait de séduction ici. Là.
Oui, ben c'est ça. On voulait, c'était une volonté qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la lumière avec la directrice artistique Fanny Gauthier puis avec la directrice photo Marie Davignon. On voulait vraiment qu'il y ait de la couleur. Moi, c'était comme je m'en allais là.
Pourquoi et donc, donner une impression qu'on est dans un conte?
Ben aussi parce que c'est drôle. J'ai entendu à un moment donné que dans les périodes difficile au niveau économique, puis ça, puis au niveau socio-économique. Souvent, les couleurs pastel reviennent à la mode parce que ça fait du bien au moral.
Mm-hmm.
Puis je me suis dit, ben si je veux faire un show qui fait du bien, ben il faut qu'on soit dans la couleur, il faut qu'on ait du rose, du bleu, du jaune, il faut qu'on se permette ça. Et donc, j'avais cette envie-là. Et on a tourné quand même dans différents lieux. On a tourné à Terrebonne, on a tourné, le verger se situe, parce qu'il y a une cidrerie, se situe à Rougemont. On a tourné à Sainte-Julie, on a tourné des scènes à Montréal aussi, dans le Vieux-Montréal, entre autres, et tout ça. Donc, on s'est éparpillé parce qu'on cherchait vraiment plus un comment une apparence des lieux colorés, vivants.
Ah oui, on est bien, on est bien. Et aussi, on est bien de façon sonore, là, l'environnement sonore. Oui. La musique est signée Fanny Bloom et vous me disiez Thomas...
Et Thomas Hébert. Ils ont travaillé les deux ensemble. Oui, ils composent toute la musique de la série.
Ils ont bien compris, là, ce que vous
vouliez. Complètement. Oui, oui, ils sont vraiment... Puis c'est toujours un plaisir de découvrir là, ce qu'ils m'envoient et tout ça à chaque épisode. Là, c'est vraiment... ils ont vraiment saisi le ton, puis je dirais même que la musique est devenue comme un personnage dans la série. Elle a vraiment pris son envol.
Oui, oui. Et elle n'est pas envahissante, elle est juste bien amenée, puis elle est là quand il le faut. Et il y a Annie qui travaille dans une bibliothèque. D'ailleurs, elle semble être une lectrice aguerrie. Elle offre une liste de lecture à Joey. Et en tête de liste, c'est Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway. Est-ce que c'est un hasard?
Non, c'est pas un hasard. Je suis allée vraiment vers les livres, moi, qui m'ont marqué dans ma vie. Bon, en même temps, je voulais une histoire d'amour, mais Pour qui sonne le glas est quand même une histoire extrêmement... tragique.
Il y a de l'amour, mais il y a de l'amour.
Mais je me souviens, puis je l'ai lu à peu près à l'âge du personnage d'Annie dans la série, donc j'ai pas non plus un souvenir, tu sais, dans le détail, mais je me souviens que j'avais trouvé cette histoire d'amour-là très prenante, et ça m'avait beaucoup, beaucoup bouleversée. Fait que je suis allée dans sa liste, il y a les livres qui m'ont bouleversée, moi.
Ouais. C'est bien, elle donne le goût de lire à Joey.
Oui.
Et plus. Oui. Alors, c'est à compter du 8 avril, ça s'en vient à compter de 22 heures. Vous allez pouvoir découvrir une nouvelle série québécoise sur Série Plus. C'est Annie et Joey, une idée de Julie Yvon, autrice et réalisatrice qui est avec nous. Merci d'avoir été là, Julie Yvon.
C'est un plaisir.
Bon
Merci.
Succès.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
She got them pay all the places I could go. Sometimes I get to losing all the way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, show me how to taste it. Got me racing, you're looking and wasting. Oh, oh, girl, we gotta place it. We don't wanna waste it, you're looking and wasting. Oh, oh, I love. On your tongues, you and me alone. I never wanna let go, never wanna stay away too long. The way you play with my head, you wanna play to my soul. Feel like I'm a loser's ball.
C'était la chanson Elegantly Wasted des Hermanos Gutiérrez et Leon Bridges.
Les vagues scélérates, c'est le livre qu'a lu pour elle et pour nous aussi, notre chroniqueuse livre Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Un livre qui traite de rupture amoureuse, signé Hélène Rompré, que vous avez aimé.
Oui, qui est paru chez Québec Amérique. C'est un roman de 204 pages. Et puis bon, oui, la rupture amoureuse, c'est fréquent. Vous avez des histoires originales comme sujet. Mais ici, c'est traité d'une manière nouvelle, je dirais. Et puis pas du tout déprimante. Hélène Rompré, c'est une spécialiste de la Première et Seconde Guerre mondiale. J'allais dire, c'est quoi le rapport?
J'allais pas dire ça.
Non, mais elle fait des liens entre les drames, les guerres mondiales, la situation des gens pour qui la vie va être complètement bouleversée, avec ce qu'elle vit comme rupture. Alors, c'est une fille qui a quand même publié là, elle a deux romans jeunesse à son actif, puis un livre pour adultes qui s'intitule « Novembre veut ma peau », qu'elle avait publié chez Tisser. Et là, elle nous arrive avec un livre qui, dès la première page, c'est comme un tsunami dans sa vie, d'où le titre d'ailleurs, Les vagues scélérates, c'est des vagues très hautes. Puis elle nous explique ce qu'il en est, puis elle nous dit que pendant longtemps, c'était folklorique ça, c'était comme le monstre du Loch Ness, là. Quelqu'un avait vu des grosses vagues, mais on n'a pas de preuves. Puis avec le 20e siècle, on a étudié ça, puis des scientifiques ont pu effectivement remarquer ces phénomènes-là. Entre autres, en 1995, une pétrolière en Norvège, là, sur une plateforme, a été engloutie par une vague de 25,6 mètres. Donc, ça fait. Et c'est ce qu'elle dit qu'elle ressent quand elle vit ce drame-là. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est que elle est prof d'histoire dans un cégep et puis elle est en train de donner un cours. Puis là, elle reçoit un message, mais là, elle va présenter une vidéo à ses étudiants sur les guerres, puis c'est ça, les bombes. Puis elle se dit, bon, je vais tantôt regarder mon message. Et le message qu'elle reçoit, elle dit que c'est comme une vague scélérate parce qu'elle l'a pas vu venir. Ça dit, j'ai des sentiments pour une autre femme, c'est fini. On est au début du livre, à la première ou deuxième page. Et là, ben, c'est toutes les étapes du choc amoureux qui est brisé comme ça, parce que elle s'attendait pas à ça, parce que cette personne avec qui elle est depuis 4 ans a signé une hypothèque avec elle parce qu'ils vont agrandir la maison, puis ils ont même échangé le testament, puis bref.
Et quel manque de courage de lui annoncer ça comme ça.
C'est oui, en même temps, c'est assez. Surtout qu'elle dit le matin, les dernières paroles qu'il m'a dit, c'est je t'aime, on ne sort pas chez le notaire, quelque chose comme ça. Alors, on sent que cette personne-là soit est traître ou a pris peur, on ne sait pas trop. Alors, elle, première étape, le choc. Et c'est ce qu'elle nous raconte à travers des petits fragments qui parfois font 2 lignes, parfois une page, une demi-page. Parfois, c'est une narration de leur relation, puis d'autres fois, c'est des souvenirs du passé ou des informations parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la science et à l'histoire. Puis bon, ben, on imagine qu'elle a fait une thérapie, qu'elle a pris des notes ou qu'elle a une mémoire très bonne de tous les petits détails qui se sont passés et qui nous indiquent un petit peu comment elle va traverser ça. Deuxième étape, ben, c'est la culpabilité. Est-ce que c'est moi? Je parle-tu trop? Est-ce que je suis trop émotive? Puis le vide, parce qu'à un moment donné, ces petites filles elle a 2 jumelles, cette femme-là, elle est monoparentale avec 2 filles, puis ils vont à un pyjama party. Et là, je la cite, elle dit « Premier samedi de solitude depuis longtemps. Une enfilade d'heures dont je n'arrive pas à voir le bout. » Plus loin, elle dit « Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. » Et effectivement, c'est quand il n'y a plus les obligations ou le travail des enfants que là, on se retrouve seul avec soi-même et que la panique peut prendre et de l'angoisse. Ensuite, ben, il y a un lien avec justement la guerre, parce que en lien avec cette solitude et ce vide qu'elle ressent quand ses filles sont parties, elle nous dit que dans une revue spécialiste en médecine, elle dit, je cite, « Le groupe qui souffre le plus de la solitude, plus que les aînés ou que les marginaux, c'est celui des vétérans. Parce que même les soldats déployés, jamais déployés, subissent les méfaits de l'isolement. Leur existence était camaraderie, lien fraternel, émotion forte, bravoure. Ils sont perdus en civil sans leur peloton. On dit que 20 d'entre eux se suicident chaque jour aux États-Unis. » C'est effrayant, ça, quand on lit ça. Alors donc, elle compare ce qu'elle vit à ce qui se passe dans les conflits à travers le monde. Elle a beaucoup de déceptions aussi parce que là, elle va faire le bilan de ben qu'est-ce qu'on a fait, puis où on a été, puis qu'est-ce que j'ai pu dire. Et puis lui, ben comme il était prof de littérature à l'université, elle lui a montré ses manuscrits parce qu'elle rêve de publier. Et puis il lui dit, c'est pas si mal, mais t'es pas Marguerite Duras. C'est pas grave, on peut pas tous être Marguerite Duras. Horreur! Quelle prétention! Lui, il écrit des poèmes qu'il n'arrive pas à publier lui non plus. Puis au début, devant cette espèce d'abstraction, elle comprend rien, puis elle n'ose pas le dire, mais plus tard, elle va comprendre qu'il se cache pour jamais se livrer finalement à travers des poèmes qu'il écrit. Et puis parfois, ben là, on a des indices à travers tout ce qu'elle nous raconte, puis on se dit, ben voyons donc, que c'est vrai, là, c'est évident, mais quand tu es en amour, tu ne vois pas toujours ça, évidemment. Alors elle dit, parfois, tu arrêtais de me parler sans m'expliquer pourquoi. Ça me faisait paniquer de subir ton silence sans savoir comment j'avais bien pu te froisser. Quand tu revenais vers moi, tu blâmais mon tempérament émotif qui nuisait, disais-tu, à ton affect et ta concentration. C'est pas rien. Alors, la pauvre, elle va traverser tout ça, mais avec beaucoup d'humour. À un moment donné, elle va chez un médecin qui se trompe en lisant son nom au lieu de l'appeler Madame Rompré. Elle l'appelle Madame Rompre. C'est peut-être un nom prédestiné pour les ruptures. Donc, il y a des jeux de mots, il y a des allusions où elle a beaucoup d'autodérision envers sa situation. Puis lui, ben, il y a des comportements un peu bizarres. Par exemple, à un moment donné, il lui propose d'aller en Gaspésie, puis il trouve que c'est trop loin. Puis finalement, plus tard, il propose d'aller en France. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis bon, ben, il y a une attitude un peu snob, un peu prétentieuse. Et puis bon, tout ça nous est expliqué au fil du temps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retourne dans le passé, à elle, son passé personnel, pas juste le passé de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et puis bon, on apprend sa relation avec sa mère, l'intimidation qu'elle a reçue à l'école, et particulièrement aussi une relation avec sa grand-mère, qui dit « T'es mieux de marier quelqu'un de la ville, parce que en campagne, on travaille fort, comme si en ville, on travaillait pas, mais en tout cas. » Et là, ben, quand sa grand-mère va décéder, elle va faire le ménage. Puis là, ben, elle trouve dans sa bibliothèque un guide pour les étudiants d'une école ménagère de 1939, publié par les Frères de l'Instruction chrétienne qui connaissent bien ça, eux autres, hein, le travail au foyer. Puis là, c'est très drôle parce qu'elle cite un passage où ils disent qu'une femme, là, ça ne doit jamais bouder ou être en colère, ça doit toujours être gentil. Il faut calmer nos nerfs. Je cite, « La ménagère doit répartir son travail de manière à ce qu'il se fasse régulièrement, sans bruit, efficacement. Il est bon de suivre un horaire régulier pour n'oublier aucune tâche. » Fait que là, il met tous les jours de la semaine avec des tâches, le midi de lavage, mardi leur passage, etc. Et le dimanche, l'église. Mais là-dedans, il n'y a aucun moment où il pense à elle, à ce qu'elle doit faire, sortir, se ressourcer, voir des amis. Non, non, ça croit qu'elle est finalement juste là pour faire le travail ménager. Et ça montre que c'est comme ça que sa grand-mère a été éduquée. Et puis sa mère, qui n'est pas bien plus tard après aussi. Donc, elle, inconsciemment, s'est vouée corps et âme à ce que tout aille bien dans la maison pour être avec lui. Elle s'est oubliée, finalement. Et c'est une des raisons pour laquelle elle est frustrée et déçue. Puis, dans sa thérapie, ben ça, c'est très intéressant. Sa psy, elle dit, tu n'as pas besoin de faire une thérapie, tu n'as pas besoin de lire des livres, là. Elle lui donne le secret que je ne révèle pas tout de suite, qu'on ira lire, mais c'est très intéressant.
Donc, on le veut, le secret.
Ah oui, ben, elle lui dit sois une montagne. Puis là, elle ne comprend pas, mais avec le temps, elle va comprendre, puis elle va devenir une montagne. Alors, c'est très intéressant, la comparaison avec la guerre, parce qu'une guerre, ça commence par être déclaré, les hostilités s'installent, puis il y a une capitulation. Puis elle dit, notre relation, ben, c'est une idéalisation, une dévaluation. Et un évincement. Donc, c'est fini, ça ne reviendra pas. Et elle est une personne intellectuelle, lectrice, qui est curieuse de tout, et ça se sent dans l'écriture. Elle écrit bien, elle a une expérience de vulgarisation parce qu'elle enseigne. Donc, ce qu'elle raconte, c'est toujours en parallèle avec son histoire, mais c'est bien dit, c'est bien amené. Et puis, bon, ben, c'est pas déprimant, là, parce que des fois, quand on lit une histoire de rupture, c'est larmoyant, c'est pas ça. C'est dur, comme au début, elle ne comprend pas. Mais on voit comment cette femme est forte et va se remettre de tout ça grâce à la nature, grâce à l'espace. Elle va faire un grand voyage en Gaspésie, puis sur la Côte-Nord. Puis c'est plein de vie là-dedans. Et puis, bon, ben, on est trouve énormément d'empathie pour la narratrice, parce que qui ne connaît pas ou n'a pas connu une rupture ou a vécu quelque chose de semblable, une déception, on se retrouve là-dedans, et c'est particulièrement féminin, féministe, et puis c'est touchant, finalement. Alors moi, dans un premier temps, j'ai tout lu ça, incapable de prendre une note. J'étais complètement absorbée. Puis après, ben, je l'ai relu une deuxième fois pour être capable de vous dire quelque chose d'intelligent ce matin qui se tenait. Parce que effectivement, c'est pas une histoire de A à Z, c'est plein de petits fragments qui racontent la difficulté de se remettre d'une vague scélérate. On peut dire ça comme ça. Bref, je le conseille à tout le monde, que vous soyez en rupture ou pas. La femme qui est là est très intéressante à suivre. Voilà.
Vous avez été donc happée par les vagues scélérates,
oui.
Écrit par Hélène Rompré et non Hélène Rompre.
Voilà.
Publié aux éditions Québec-Amérique. Merci beaucoup, Anne-Marie. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Daniel Bélanger, sa chanson « Jamais loin ».
Dans la presse d'aujourd'hui, c'est « Boissons énergisantes qui coupent les ailes », texte de Patrick Lagacé. Pour un adolescent, boire des boissons énergisantes peut être dangereux pour la santé. C'est un risque connu, documenté par la science. Et ce danger peut aller jusqu'à la mort. C'est l'interaction d'une canette de Red Bull avec le bifentin, un médicament qui régule le TDAH, qui a tué Zachary Miron, 15 ans, en janvier 2024. En gros, le mélange entre le méthylphénidate contenu dans le bifentin et la caféine du Red Bull a causé une arythmie qui a entraîné la mort subite du jeune Miron. Zacharie Miron n'est pas le seul jeune à avoir payé de sa vie l'ingestion d'une boisson énergisante. Dans Google, les mots « energy drinks death teen » donnent de nombreux résultats dans de nombreux pays. La mort tragique de Zacharie, qui n'a bu qu'une seule canette de Red Bull dans un contexte sportif, il était en ski, a fait l'objet d'un long reportage intitulé « Red Bull et Bifontin, un cocktail qui peut tuer » à l'émission Enquête en décembre dernier. La journaliste Julie Dufresne a retourné toutes les pierres ici et ailleurs dans le monde. Les risques liés à la consommation de boissons énergisantes chez les jeunes sont méconnus. Les risques liés à l'interaction de ces boissons avec des psychostimulants prescrits pour le TDAH le sont tout autant. Quand on achète du Red Bull ou d'autres boissons énergisantes, rien n'indique sur le produit qu'il y a un danger de malaise cardiaque si on consomme des psychostimulants. Des articles scientifiques ont montré les risques chez les jeunes de consommer ces boissons énergisantes en général et en particulier quand on prend des psychostimulants. Des scientifiques appellent à la prudence. En Europe, des pays comme la Lituanie et la Norvège interdisent la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Le Royaume-Uni songe à le faire. Vous avez peut-être vu les parents de Zacharie en entrevue ces dernières semaines. Ils sont en croisade pour que la vente de ces boissons énergisantes soit interdite aux moins de 16 ans. David Miron et Véronica Martinez portent une pétition qui a déjà récolté 13 400 signatures sur le site de l'Assemblée nationale pour interdire la vente de ces boissons énergisantes aux moins de 16 ans et envisager la même interdiction pour les moins de 18 ans. J'ai parlé avec David et Véronica la semaine dernière. Ils perpétuent la mémoire de Zacharie en se battant pour éviter d'autres décès à d'autres adolescents. Ils sont tous deux consternés de constater que les risques connus d'interaction fatale entre une boisson énergisante et un psychostimulant chez les jeunes ne sont pas l'objet de mise en garde systématique de la part des médecins et des pharmaciens. Quand on vous prescrit certains médicaments, on vous le dit et c'est écrit sur le contenant. Ne prenez pas d'alcool avec ce médicament. Ceux qui prescrivent des psychostimulants, les médecins, et ceux qui les préparent, les pharmaciens, ils devraient nommer ce risque, dit Véronica Martinez, la mère de Zacharie. Le député Guillaume Clich-Rivard épaule les parents de Zacharie dans leur mission pour que les risques de consommation de boissons énergisantes soient mieux connus. Le député de Québec solidaire espère que tous les partis pourront s'entendre rapidement pour régler le problème, d'ici la fin du mois de juin, quand le Parlement sera dissous avant les élections d'octobre. C'est un problème de santé publique énorme. Surtout que la santé publique, avec un grand S, connaît le problème et appuie la recommandation d'un comité consultatif d'interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs depuis 2023. Le comité, qui comptait une dizaine d'experts, recommandait aussi d'encadrer la vente et la promotion de ces boissons. Mais depuis 2023, rien ne s'est passé à Québec, écrit Patrick Lagacé. Le gouvernement caquiste n'a pas donné suite à ce rapport appuyé par sa propre santé publique. Le rapport dort sur la proverbiale tablette, preuve que les officines gouvernementales devraient parfois boire du Red Bull métaphorique plutôt que de la tisane. Qui a le pouvoir de transformer l'appui de la direction de la santé publique sur les restrictions de la vente de boissons énergisantes aux adolescents? Sa patronne, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.
Ça ne goûte rien. J'ai beau faire le tour du monde, aucune soupe ne te contient. Je te cherche, Stéphanie. Épice de mes matins, piment de mes quotidiens. Sans toi, ça ne goûte rien. Je te cherche, Stéphanie. se passe, Stéphanie? Stéphanie!
Avez-vous deviné le titre de cette chanson, Hélène?
Nathalie?
Hey, c'est pas loin. Stéphanie.
Stéphanie.
Les Trois Accords.
Oui, la nouvelle chanson des Trois Accords. Lestroisaccords.com pour avoir toute la liste des spectacles parce qu'ils en donnent beaucoup, beaucoup et plusieurs affiches complets. Le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, sera vers 11h, donc ça s'en vient, s'il doit dédommager les 9 femmes qui réclament 14 millions aux civils pour des agressions sexuelles et des viols qu'il aurait commis à leur endroit entre 1980 et 2004, écrit Jean Siak dans la presse. Après 6 mois de délibération, la juge Chantal Tremblay, qui a présidé le procès fleuve de 10 mois, rendra son jugement public aujourd'hui vers 11h. Les deux parties en prendront connaissance dans l'heure précédente, selon nos informations. Un point de presse des avocats qui représentent les 9 femmes, Lynn Charlebois, Annick Charrette, Patricia Tulane, Dani Frenette, Sophie Moreau, Martine Roy, Guylaine Courcel, Mary Sicari et Anne-Marie Charrette aura lieu peu après. Les avocats de M. Rozon n'ont pas encore manifesté leur intention de s'adresser aux médias. Le fardeau de la preuve en matière civile revient aux plaignantes. Elles devaient convaincre la juge que leur version des faits était plus probable que celle de Gilbert Rozon, plus de 50 % de chance. Depuis le début du procès en décembre 2024, l'ex-producteur a nié avoir agressé ou violé les 9 plaignantes. Il a toujours affirmé avoir eu des relations consensuelles avec 3 d'entre elles, Lynn Charlebois, Patricia Tulane et Annick Charrette. Selon son témoignage, les 6 autres plaignantes auraient fantasmé ou inventé ces relations. On se retrouve demain, 1er avril, jour des poissons d'avril. Nous serons aux aguets. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée sous la pluie. Soyez prudents.